Nous allons goûter ce soir à l'un de nos meilleurs crus à Corfia. Grand cru s'il en est, car il s'agit d'une noble appellation. Celle de notre ami André Lingois, fin connaisseur du terroir bourguignon, pas seulement. L'appétit gourmand qui le caractérise l'a conduit grazie mille sur les terres italiennes dont il a savouré et le cru et le cuit depuis belle lurette. C'est ainsi qu'il a pu évoquer devant nous ses voyages en Italia bella. Pour cela, il a su faire briller à nos yeux les belles plumes des écrivains français, amoureux de la sorella latine. Avec lui, nous avons humé le bouquet des vers de Lamartine, goûté la prose vive de Valéry Larbeau, Roger Vaillant, Camus, entre autres cépages renommés. Sans compter le plaisir de goûter à la verve latine d'Ovide et de Virgile, née sur la péninsule. André Lingois a beaucoup lu, beaucoup aimé et toujours partagé avec nous, les italianophiles. Grâce à son humour teinté de truculence rabelaisienne, nous avons bu ensemble la dive bouteille du savoir et du goût. Ce soir, André, notre ami, disciple d'Épicure, s'est sûrement mis à l'eau pour nous parler de ses amis en littérature, ses écrivains français, voyageurs en quête d'Italie. Ces écrivains français qui nous sont familiers, car comme nous, ils ont goûté aux saveurs des provinces italiennes, aimé leur langue et leur parfum, quitte à se laisser griser de plaisir. Nous connaissons tous ce qu'est le syndrome de Stendhal, car il nous a transportés. Maintenant, bien carrés sur nos sièges, nous allons écouter sagement l'évocation de ces auteurs français qui, de Chateaubriand d'hier à Yannick Enel d'aujourd'hui, ont su nous faire vibrer. Après, nous chanterons et trinquerons à la santé d'André. Libiamo, libiamo, amico caro.
Chers accorfiens, je suis confus et que, après une si belle introduction, j'ai tout à fait peur de vous décevoir. Alors je vais essayer d'être à la hauteur, sinon de Chateaubriand, tout au moins de Yannick Enel, bon, et de ceux qui sont entre les deux. Bon. L'Italie, comme vous le savez, a, depuis longtemps, je dirais même dès le Moyen-Âge, elle a attiré l'Europe et principalement la France. Au départ, c'était une destination commerciale. Mais à partir de la Renaissance, le rayonnement artistique et intellectuel de l'Italie va attirer l'élite européenne et bien sûr le voyage au-delà des Alpes, qu'on appelle l'Iter Italicum, a essentiellement un motif littéraire et artistique, tout au moins en principe. Et il devient indispensable à la formation du futur humaniste. Et très vite, il est même considéré comme un parcours initiatique et rituel de toute une jeunesse, quelquefois un âge mûr, épris de culture et de nouveautés. Alors on peut dire que ce voyage a acquis une véritable dimension symbolique. L'exemple de référence, c'est le journal de voyage de Montaigne, qui est daté de septembre 1580 à novembre 1581. Au XVIIe et au XVIIIe, les voyageurs sont de plus en plus nombreux. Les hommes d'église et les hommes de loi forment certainement la cohorte la plus importante. Alors je prendrai deux exemples, seulement deux. Bon. Un certain bénédictin de la congrégation de Saint-Maur du nom de Bernard de Montfaucon, que vous ne connaissez pas et que je ne connaissais pas il y a quelque temps d'ailleurs. Il est l'auteur d'un Diarum Italicum en date de 1702. Mais l'autre est plus connu, c'est mon cher compatriote, le président Charles de Brosse, parti de Dijon en 1735, avec trois acolytes, trois bourguignons aussi, oui, et qui vont découvrir l'Italie, et d'abord les îles Borromée, et s'extasier devant l'Isola Bella, on la verra tout à l'heure, on va peut-être la voir même assez vite. Oui, j'ai oublié de vous montrer, au fait, les photos, qu'est-ce que je fais là? Bon. Oui.
Voilà la carte.
Ah, voilà déjà la carte, bon. Et le suivant, comment il passe? Ah, bon, voilà Montaigne, qui a dû arriver en même temps que je vous parlais de lui. Je ne sais pas si on verra Bernard de Montfaucon, mais on doit voir De Brosses. Oui, oui. Voilà De Brosses, oui. Oui, bon, il n'est pas étonnant. Bon. Bien. Mais par contre, les îles Borromée, ça, c'est beaucoup plus joli. Voilà, l'Isola Bella, alors ça, c'est magnifique. Ça. On comprend que les Français soient damnés pour cette région. Voilà. Alors, à la suite, je disais que les voyageurs ont pris le chemin d'Italie avec une alternance entre ecclésiastique et Robin. Alors, ainsi, un certain Jean-Baptiste Dupaty, président au Parlement de Bordeaux, fait paraître en 1785 ses lettres d'Italie, tandis que l'abbé Barthélemy, je crois qu'on va le voir, le voilà, bon, né en 1716 et mort en 1795, à la suite d'un séjour de 3 ans en Méditerranée, publie en 1788 un livre qui a eu un grand succès à l'époque, on ignore totalement aujourd'hui, ça s'appelle « Le voyage du jeune Anacharsis en Grèce ». Oui, voilà le titre. Bon, lequel s'achève en Grande Grèce, c'est-à-dire en Italie du Sud, et qui a connu un succès populaire assez étonnant, même jusqu'au milieu du 19e. Et en 1801, bien, il écrira son voyage en Italie. Bon, cela dit, l'un des plus beaux textes littéraires sur l'Italie reste sans conteste la lettre à Monsieur de Fontane sur la campagne romaine que Chateaubriand a écrit en 1804. Voilà notre Chateaubriand. Je vous rappelle que Chateaubriand fera en tout 6 séjours à Rome. Et celui de 1803, c'est vraisemblablement le 3e. Secondement, je rappelle que Louis de Fontane, professeur au Collège des Quatre Nations, aujourd'hui siège de l'Institut de France, a été nommé par Napoléon grand maître de l'université. Et il est le fondateur d'une noble institution que vous connaissez tous, qui est le lycée. Alors cette lettre à Fontane, encore célèbre aujourd'hui d'ailleurs, devait faire partie d'un ensemble de 20 lettres destinées à être mises en parallèle justement avec celle de De Brosses et de Dupaty. Alors on peut dire que cette lettre a inauguré un genre nouveau que j'appellerais le paysage littéraire. Une belle image, esthétiquement impeccable. Sainte-Beuve dira plus tard qu'elle est un des sommets de notre prose moderne. Et un texte plein d'allusions historiques et culturelles. Alors, dans ce cas précis, l'écrivain brosse une suite de tableaux justement inspirés par 2 grands peintres de l'époque classique, Nicolas Poussin. Vous allez voir. Voilà. Oui, alors c'est le célèbre tableau qui s'appelle « Les bergers d'Arcadie hein, ». On intitule aussi « Et in Arcadiam, et in Arcadia ego ». Oui. Bon. Et l'autre, c'est Claude Gelée dit le Lorrain. Alors, je ne sais pas s'il y a un tableau du Lorrain. Non. Excusez-moi.
Non, bon. Non, c'est Pauline de Beaumont.
Oui, c'est Pauline de Beaumont. Alors, un mot peut-être sur les circonstances de ce séjour de 1803-1804, puisque la lettre à Fontane est datée du 10 janvier. Alors, Chateaubriand a été nommé par le premier consul, le 4 mai 1803, exactement, je l'ai noté, secrétaire d'ambassade à Rome pour accompagner le cardinal Fesch. Alors, il arrive à son poste le 27 juin, mais auparavant, il a fait la connaissance, et en même temps la conquête, de Pauline de Montmorin, que voici, comtesse de Beaumont. Ben, c'est une bourguignonne, au fait, hein, j'ai découvert ça. Elle était née en 1768, exactement, à Mussy-sur-Seine. Mussy-sur-Seine, c'est un petit peu au-delà de Châtillon-sur-Seine. C'est plus la Côte d'Or, c'est le début du département de l'Aube. Et pour la petite histoire, leur première rencontre, avec Chateaubriand et Pauline de Beaumont, a eu lieu à Villeneuve-sur-Yonne. Nous sommes dans le département voisin, dans la maison d'un ami de longue date, de moraliste que vous connaissez tous, Joseph Joubert. Entre nous, personne ne lit Joubert. Hein. Bon. Alors, Joubert, il est connu, alors je vous donne ses dates, 1754-1824. Alors, il est connu par un travers assez rare. Il avait la manie de découper dans ses livres toutes les pages qui lui déplaisaient. Alors, ce qui faisait dire à la Vox Populi que sa bibliothèque ne contenait que des coquilles vides. Il était connu aussi par ses nombreux aphorismes. Alors, il y en a un qui est très joli, « Le soir de la vie apporte avec lui sa lampe ». Ou celui-ci qu'on m'a infligé comme composition française à entrer en classe de troisième. Et j'ai beaucoup séché là-dessus. Hein. « Quand mon ami est borgne, je le regarde de profil. Ben, » il fallait le prendre au sens, même je ne l'ai pas su à l'époque. Hein. Bon. Depuis, j'ai su. Bon. Alors, Joubert est devenu célèbre par son amitié, ou plutôt son amour, disons platonique, pour Pauline de Beaumont, que vous admirez là. Alors, comme vous savez, les histoires de cœur se terminent souvent mal. Alors, cette dame qu'il appelait familièrement l'hirondelle, essayant de se distraire, ou plutôt de distraire sa mélancolie dans la ville éternelle et d'oublier sa maladie, elle a fait venir François René, qui recueillit son dernier soupir le 4 novembre 1803. Alors, je ne sais pas si... Ah oui, voilà. Alors là, il est encore pas complètement malade, il est emmitouflé, oui. Et devant le Colisée, je pense que c'est une reconstitution. Hein. Bon. Mais si vous voulez avoir des renseignements sur elle, eh bien, vous lisez un livre absolument charmant, écrit en 1982 par un autre enchanteur, vous l'avez deviné, j'ai nommé Jean d'Ormesson. Et il a pour titre « Mon dernier rêve sera pour vous ». C'est tout à fait charmant, ça vous plaira beaucoup. Hein. Alors cet épisode funèbre, il s'accorde très bien avec cette forme de romantisme sentimental qu'on retrouve dans certaines pages que vous connaissez, des mémoires d'autotombe, quand par exemple l'auteur parle de sa sœur Lucille, ou encore dans Atala. Alors on pense à la scène des funérailles, là vous l'avez mise en relief par l'illustration de Giraudet, c'est le type même de la vignette romantique. Mais j'en reviens à l'essentiel, la lettre à Fontane qui mérite bien le compliment de Sainte-Beuve. En voici un large extrait.
Les campagnes romaines ont une inconcevable grandeur. On est toujours prêt, en les regardant, à s'écrier avec Virgile « Salve magna parens frugum saturnatelus magna virum » « Salut, terre féconde, terre de Saturne, mère des grands hommes. » Si vous les voyez en économistes, elles vous désoleront. Si vous les contemplez en artistes, en poètes et même en philosophes, vous ne voudriez peut-être pas qu'elles fussent autrement. L'aspect d'un champ de blé ou d'un coteau de vigne ne vous donnerait pas d'aussi fortes émotions que la vue de cette terre dont la culture moderne n'a pas rajeuni le sol et qui est demeurée antique comme les ruines qui la couvrent. Rien n'est comparable pour la beauté aux lignes de l'horizon romain, à la douce inclinaison des plans, aux contours suaves et fuyants des montagnes qui le terminent. Souvent, les vallées dans la campagne prennent la forme d'une arène, d'un cirque, d'un hippodrome. Les coteaux sont taillés en terrasse, comme si la main puissante des Romains avait remué toute cette terre. Une vapeur particulière, répandue dans les lointains, arrondit les objets et dissimule ce qu'ils pourraient avoir de dur ou de heurté dans leur forme. Les ombres ne sont jamais lourdes et noires. Il n'y a pas de masse si obscure de rochers ou de feuillages dans lesquels s'insinue toujours un peu de lumière. Une teinte singulièrement harmonieuse marie la terre, le ciel et les eaux. Toutes les surfaces, au moyen d'une gradation insensible de couleurs, s'unissent par leurs extrémités sans qu'on puisse déterminer le point où une nuance finit et où l'autre commence. Vous avez sans doute admiré dans les paysages de Claude Lorrain cette lumière qui semble idéale et plus belle que nature. Eh bien, c'est la lumière de Rome. Je ne me lassais point de voir à la Villa Borghese Le soleil se couchait sur les cyprès du mont Marius et sur les pins de la villa Pamphili, plantée par le nôtre. J'ai souvent remonté le Tibre à Ponte Mole pour jouir de cette grande scène de la fin du jour. Les sommets des montagnes de la Sabine apparaissent alors de lapis-lazuli et d'or pâle, tandis que leurs bases et leurs flancs sont noyés dans une vapeur d'une teinte violette ou purpurine. Quelquefois, de beaux nuages, comme des chars légers, portés par le vent du soir avec une grâce inimitable, font comprendre l'apparition des habitants de l'Olympe sous ce ciel mythologique. Quelquefois, l'antique Rome semble avoir étendu dans l'Occident toute la pourpre de ses consuls et de ses Césars sous les derniers pas du dieu du jour. Cette riche décoration ne se retire pas aussi vite que dans nos climats. Lorsque vous croyez que les teintes vont s'effacer, elles se raniment sur quelque autre point de l'horizon. Un crépuscule succède à un crépuscule et la magie du couchant se prolonge. Il est vrai qu'à cette heure du repos des campagnes, l'air ne retentit plus de chants bucoliques. Les bergers n'y sont plus. Dulcia inquimus arua. Mais on voit encore les grandes victimes du clitumné. Des bœufs blancs ou des troupeaux de cavales demi-sauvages qui descendent au bord du Tibre et viennent s'abreuver dans ses eaux. Vous vous croiriez transporté au temps des vieux Sabins ou au siècle de l'Arcadien Évandre. Poimenes Lyon, alors que le Tibre s'appelait Aboula et que le pieux aîné remonta ses ondes inconnues.
La période romantique qui va suivre n'oubliera pas l'Italie, même si les brumes du Nord lui feront concurrence. En 1811, le jeune chevalier de Prat, alias Lamartine, séjournant à Naples et dans l'île d'Ischia, vit alors une aventure amoureuse qu'il évoquera dans le poème « Le Golfe de Baïa », écrit en 1813 et paru en 1820 dans les Méditations poétiques, et surtout dans « Graziella ». On va voir le portrait. Voilà. Charmante jeune fille. Alors, son cours familier de littérature contient un hymne enthousiaste à l'Italie dont on va vous livrer quelques lignes enflammées.
Et comment n'aurais-je pas aimé l'Italie ? Et comment n'aurais-je pas eu foi ? Je ne dis pas dans les armes, mais dans la vie et dans la fécondité de son génie en tout genre. L'Italie, pour moi, n'est pas un pays. C'est un mirage. Ce n'est pas de l'air qu'on y respire, c'est de l'âme, une âme de feu, de langueur, d'enthousiasme, d'antiquité, de jeunesse, de mélancolie et d'héroïsme à la fois. On s'y fait, et dans la même minute, poète, amant, citoyen, contemplateur, cénobite. Les sensations n'y parlent pas en vous. Elles y chantent, elles y parcourent en une heure la gamme entière de toute une vie. Il n'y a pas de prose dans cet air. Tout y est musique, mélodie, extase ou poème. C'est sans doute pour cela que Rossini ou Mozart transportent au-delà des Alpes, dans tout l'univers, une langue de mélodie qu'aucune autre partie du monde ne peut rendre en paroles, tant ces lyrismes intérieurs dépassent les langues parlées. Ce qu'on ne peut pas dire, on le chante.
Et d'ajouter un peu plus loin, toujours en cultivant l'hyperbole, l'Italie n'est pas seulement une terre, c'est un instrument de musique, c'est l'orgue du monde. Il suffit qu'un sentiment souffle dans les âmes pour que tout y résonne. C'est beau, hein ? En ce début du 19e, nous allons retourner en Lombardie, la même où le président de Brosse a vu son coup de cœur. Et c'est le lac de Côme qui va attirer notre attention. Nous sommes le 18 juillet 1817, tout près de la villa Melzi, belle demeure de style néoclassique, que vous admirez, célèbre par son parc-jardin anglais, et surtout par le séjour en 1833 de Liszt en compagnie du mari d'Agout. Alors, le voyageur n'est autre que Stendhal. Voici ce qu'il note dans son journal intitulé « Rome, Naples et Florence en 1817 ».
Ce matin, à 5 heures, nous sommes partis de Côme dans une barque couverte d'une belle tente bleue et blanc. Nous avons visité la Villa Pliniana et sa fontaine intermittente. La lettre de Pline est gravée sur le marbre. Le lac devient en cet endroit sombre et sauvage. Les montagnes se précipitent presque à pic dans les eaux. Enfin, nous avons aperçu la délicieuse plage de Tremezzina et ses charmantes petites vallées qui, garanties du nord par une haute montagne, jouissent du climat de Rome. Les frileux de Milan viennent y passer l'hiver. Les palais se multiplient sur la verdure des collines et se reflètent dans les eaux. C'est trop de dire palais, ce n'est pas assez de les appeler maisons de campagne. C'est une manière de bâtir élégante, pittoresque et voluptueuse, particulière aux trois lacs et aux collines di Brianza. Les montagnes du lac de Côme sont couvertes de châtaigniers jusqu'au sommet. Les villages, placés à mi-côte, paraissent loin par leurs clochers qui s'élèvent au-dessus des arbres. Le bruit des cloches, adouci par le lointain et les petites vagues du lac, retentit dans les âmes souffrantes. Comment peindre cette émotion ?
Ce même paysage va susciter des émotions semblables beaucoup plus tard, à la fin du 19e, exactement en 1893, lorsque Maurice Barrès, au cours de ses voyages, notamment en Italie, décrit son séjour en Lombardie. On peut lire dans une nouvelle qui fait partie du recueil intitulé « Du sang, de la volupté et de la mort » cette page qui fait écho au texte des trois grands voyageurs qu'on vient d'évoquer.
Jardins épars sur les lacs de Lugano, de Côme, de Garde, de Varese. Incomparable paradis pour des êtres qui ne veulent avoir que des soucis viagers. Jardin Giulia, Melzi, Sommariva, Cerbelloni, syllabes chantantes, terrasses parfumées et lumineuses. Pourtant, c'est déjà l'automne. Une petite pluie fine tombe sur les arbres. Sur ces pentes où je me promène et qui enserrent le lac, l'allée est droite comme un balcon et offre partout des bancs. Sans effort, sans penser, au milieu des myrtes, des citronniers, des palmiers, on s'enivre à la coupe de lumière qu'est ce paysage. Mais c'est de l'automne, plus encore que de la flore méridionale, qu'est fait, selon mon goût, le charme de ses bords. De vieux arbres qui tendent leurs branches vers la lumière s'interposent entre le promeneur et le cirque. On ne voit plus le bleu du lac, les maisons plaisantes, les forêts de mûriers, d'oliviers, qu'à travers un mince rideau de feuilles immobiles. Ainsi, demi-voilée de feuillages jaunissants, la nature dans ce grand silence est plus adorable qu'aucune composition de l'art. Et les femmes du printemps de ce fameux Botticelli ne sont que de pauvres petits insectes auprès de ce repos, de cette genèse, de cette véritable déesse qu'est la nature au jardin de Lombardie. Pourquoi désigner-t-elle villa ? C'est toute la région qui nous est un jardin, au sens magique que reçoit ce mot quand il désigne les liens mystérieux de la légende. Depuis le jardin biblique des commencements du monde jusqu'au jardin enchanté d'Armide. Et dans ces jardins d'Italie, je m'enivre d'une poésie à l'état flottant, essentielle, dégagée de tout remaniement humain, émotion indéfinie, par là inférieure aux choses de l'art, mais qui donne une impression d'autant plus féconde.
Dans cette période qui va de la fin du 19e jusqu'à l'avant-guerre, la guerre de 14 bien sûr, presque toute l'Europe a été attirée par cette région des grands lacs italiens, à vrai dire concurrencée par la Riviera. Mais les admirateurs sont légion, à commencer chez nous par des valeurs sûres, comme Taine. Son voyage en Italie date de 1866, et Renan, souvent les associés Taine et Renan, ils vont ensemble. Et Thibaudet disait ça marche comme Tarn-et-Garonne, oui, c'est un peu vrai. Oui. Bon. Renan s'y est rendu à peu près à la même époque en tant que chargé de mission. Ses notes ont été publiées seulement en 1928. Alors, en voici un court extrait en forme de louange. En Italie, un goût charmant pour la vie, douceur vague de vivre. Nous, il nous faut agir. Nous sommes toujours pressés. Eux, non. Ils jouissent de ce cours lent et monotone. Nous, il nous faut descendre en bateau à vapeur. Nous n'aimons dans la vie que l'action. Eux, ils aiment la vie. Les monuments anciens chez eux sont morts, des objets de musée. Ici, ils sont vivants, vrais. Et on peut dire que pendant tout le XXe siècle, les voyageurs vont se presser en Italie comme à la porte d'un théâtre. Je ne citerai que les plus férus de littérature en suivant l'ordre chronologique. Et en premier lieu s'impose un historien d'art, un peu oublié de nos jours, Jean-Louis Vaudoyer, 1883-1963. J'y tiens beaucoup, parce qu'il a été un des premiers admirateurs de René Boileau, et vous connaissez mon penchant pour cet écrivain, bon, je n'en parlerai pas. Bon. Alors, pour revenir à Vaudoyer, il a écrit en 1924 un livre charmant, qui a un joli nom, ça s'appelle « Les délices de l'Italie ». Exemple.
N'est-ce point le naturel dans l'excès, partout répandu ici, qui fait toujours revenir en Italie celui qui a été une fois séduit par ce cher pays? La vie moderne, dans les pays du Nord, n'est guère arrangée pour permettre à la nonchalance d'être si permanente. C'est par récréation que les septentrionaux se donnent la comédie. Mais ici, rien n'est changé depuis deux siècles, que le costume. Les personnages de la scène restent les mêmes. On coudoie Brighella et l'on s'esclave devant Pantalon. Cette commère, au fond de la fruiterie sans devanture et qu'éclaire un seul quinquet, n'est-ce point une frosine entremetteuse? Ce réverbère à potence ne dessinerait-il pas Pulcinella en silhouette sur le mur couleur de rose? À chaque pas, on trouve une délicieuse ou comique raison pour s'arrêter. Les coiffeurs, dans leur boutique, rasent des clients qu'ils ont vêtus de peignoirs à grandes raies de couleur, sous lesquels ils ressemblent à de malicieux capins. Les terrasses des cafés sont occupées par de jeunes badauds qui ne consomment jamais rien. Nulle morgue, nulle pause, ni vanité, ni envie. La vie est facile. On l'enjolive de mille disputes que l'on épuise vite et avec passion.
Après la guerre, en 1950, les lecteurs avaient été séduits par deux livres d'inspiration un peu semblables ou ayant, disons, le même charme prime sautier. C'est « L'Italie au jour le jour » et « L'Italie à la paresseuse ». Joli titre, hein? Bon. Alors, « L'Italie au jour le jour » a été écrite par Roger Lannes. Le voici, je n'ai trouvé que ça pour le représenter. C'est tiré du journal « L'année poétique » et vous avez le profil de Lannes. Lannes a disparu en 1982, vous voyez que c'est l'auteur plus près de nous, qui a été romancier, poète, critique littéraire et très proche de Jean Cocteau et Marc Jacob. Pourtant, ça. Et Marc Jacob, en particulier, admirait son talent épistolaire. Alors, pour Roger Lannes, se rendre en Italie, c'est tout simplement revenir à soi. Et il écrira dans sa préface, « Aller en Italie aujourd'hui, c'est recourir à l'Italie. Ce ne sont ni la curiosité ni le désœuvrement qui vous y guident, c'est une nécessité impérieuse, c'est une requête irrésistible. » Alors son livre est un journal qui va exactement du 12 février au 9 juin 1949, En voici deux passages, le premier sur Rome et le second sur la voie appienne.
On traverse avant d'arriver au palais Farnèse, ce qui est de Rome le marché aux puces. Des échoppes les plus creuses, des éventaires les plus battus en plein vent, se déversent et s'étalent à même la rue, c'est-à-dire dans le vide. Quelque chose qui est tout et rien à la fois, et qui n'a plus de nom dans aucune langue. Je préfère cette Rome-là à celle de la Via Veneto, avec ses palaces, ses restaurants de grand luxe, sa clientèle absurde de vedettes de cinéma et de touristes sud-américains, et qui appartiennent moins, du reste, à l'univers d'une grande capitale qu'à celui éphémère, artificiel et tragique d'une ville d'eau.
Alors ce paysage, la Via Appia, est traité comme le pourrait être une solennité nationale. On l'a décoré, on l'a harnaché de symboles et d'honneurs impériaux. Ces monuments, ces tumuli, ces façades couvertes d'insignes sont autant d'ordres et de grands croix portés par l'armure vide du temps. Voilà le tombeau de Sénèque et celui de Saint-Urbain, voilà ceux d'Icurias et d'Horace. Ils se défient encore, pierre sur pierre, ils résistent à la crue du rien, toujours plus haute, toujours plus alimentée par l'invisible. Chateaubriand a dit que la mort était née à Rome. Ici même, sans doute. L'Italie et la paresseuse, entre nous c'est un très joli titre, hein. C'est un petit livre sans prétention, écrit par un certain Raymond Théodore Barthelmès, 1904-1956, plus connu sous le nom d'Henri Calais. C'est Henri Calais, c'est l'auteur d'un petit livre charmant qui s'appelle « Le tout sur le tout hein. ». Et ça, je vous le conseille. Alors, c'est un original, ce Calais. Je crois qu'il y a une photo de lui. Le voilà. Bon. C'est très intellectuel. C'est original, aux multiples vies, aux mille métiers, toujours en errance, l'œil toujours aux aguets, a été découvert et porté au nu par un très grand connaisseur en talent non conformiste qui s'appelle Jean Paulhan. Henri Calais manifeste son enthousiasme dès la frontière franchie.
Nous débouchions en Italie, on ne pouvait s'y tromper. C'était elle. Ça a été un changement à vue d'œil, de celui de ciel de forme, de couleur, un changement à vue de nez, d'odeur, de climat, un changement à vue d'âme, si l'on peut dire ainsi. Je me répétais, en proie à l'excitation la plus vive, « L'Italie, l'Italie !» Les grandes effusions, tout de même que les grandes douleurs sont muettes ou bredouillantes. Combien je regrette de n'avoir pas eu à cette minute mon guide sous la main. J'y aurais pu choisir une ou deux phrases distinguées. Celle-ci, par exemple, « Terre de la beauté et de la douceur de vivre » ou « Comment se reconnaître parmi tant de beautés sur lesquelles bute à chaque pas le voyageur ébloui ?» Au lieu de cela, il ne me revenait que des bribes de la chansonnette de Tino Rossi, à quoi se mêlaient des fragments de Mignon. J'étais donc au pays où fleurit l'oranger, au pays des fruits d'or et des roses vermeilles, où la brise est plus douce et l'oiseau plus léger. C'est à ce point que les deux morceaux se confondaient. N'importe. La terre était en effet plus verte qu'en Suisse. Le ciel plus bleu, j'étais plus léger, la brise faisait défaut. Quant aux orangers, ils viendraient ultérieurement.
Notre voyageur délaisse souvent les curiosités touristiques pour s'intéresser à la vie quotidienne, au lieu où se presse le peuple. Ainsi, à Rome, il va au Cinodromo, assister aux éliminatoires du Grand Prix de Rome pour chiens. Une compétition internationale, un spectacle inattendu, où il perdra 9000 lire. Il se consolera dans une trattoria, ou mieux, dans un café où il n'aura que l'embarras du choix. Écoutons-le parler de ce café et de la qualité du petit noir, car en plus, il aura le spectacle.
Les cafés de Rome sont merveilleux. À côté d'eux, les nôtres ont l'air quelconques. Il y a là une entreprise humaine portée à sa perfection. Les cafés italiens peuvent être considérés comme une industrie nationale. Un personnel diligent et souriant apporte tous ses soins, toute son attention, diligent et souriant, non, toute son, non, pardon, excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Un personnel diligent et souriant apporte tous ses soins, toute son attention à de multiples chaudières sous pression. Subitement, un feu rouge ouvert s'allume et clignote. Alors un homme s'élance. Parfois, un jet de vapeur siffle. Il coule de ses engins des breuvages divers, l'expresso, entre autres. Ses faïences, ses nickels brillants, ses miroirs, cette propreté méticuleuse, cette activité silencieuse pourraient donner à croire que l'on est dans une salle d'opération. Les caissières sont jeunes, les garçons bien tournés dans leurs vestes blanches immaculées, ornementés d'épaulettes d'officiers de marine, dorés et torsadés, c'est des plus gracieux.
Je ne peux m'empêcher de mettre en parallèle la description, nettement moins laudative d'ailleurs, que fait Jean Giono au chapitre 2 de son voyage en Italie. Nous avons fait la connaissance avec ce café, alors c'est déjà la glace qui arrive, bon. Revenons au café. Réclame pour la maison Faenza, publicité gratuite. Bon. Nous avons fait la connaissance avec ce café dont on parle tant. On le soutire à petit fil d'un énorme alambic qui crache comme une vieille locomotive. Il est vrai que j'étais au bar de l'hôtel à l'heure matinale où l'on règle ces importants appareils. Il y faut des ingénieurs. C'était un des valets de chambre qui donnait des indications à une jeune fille. Elle manipulait des manettes, tournait des roues, la tubulure tremblait, la vapeur giclait tous les joints, les cylindres voulaient accoucher d'on ne sait quoi. Il me fallut l'attitude des manipulants qui restaient impavides pour comprendre qu'il ne se passait rien d'extraordinaire. Cela toutefois supprime l'odeur du café, si agréable le matin. À mon avis, c'est une grosse perte. J'aime moins boire le café que sentir qu'on est en train d'en faire. Il faut parler également d'un autre lieu familier pour les Italiens et fort apprécié des touristes, la boutique où l'on vend des glaces, ou la gelateria. La voici là. Alors, redonnons la parole à Henri Calais.
Les glaces ou gelati sont délicieusement compliquées. Dans le voisinage du Panthéon d'Agrippa, on sert des coupes Panthéon, qui sont, selon mon avis, la plus belle réussite en la matière. C'est haut, un peu tarabiscoté, c'est en plusieurs teintes, différemment parfumé, on y trouve de la crème chantilly et même dans le fond, quelques gouttes de liqueur. L'édifice est couronné d'une gaufrette, mais le prix de cette glace gigogne est élevé. Somme toute, je me demande si l'artiste n'avait pas le projet intime de reproduire le Panthéon.
Je suis désolé, j'ai cherché partout une illustration qui soit à la mesure de cette description. J'ai trouvé que ça, c'est... Je sais pas, c'est... Bon. Pardonnez. Ça donne envie de sucer, quand même. En cette année 1950, nous sommes en 1950, a eu lieu l'édition définitive d'un livre qui avait connu, lors de sa parution en 1910, de sa première partie, un très beau succès d'estime. Ce livre loué par Bergson et Peggy, deux références hein, tout de même. Ce livre est dû à un écrivain hors norme, issu d'une grande famille israélite, André Suarez. Ce livre, c'est Le Voyage du Condottiere, un ouvrage que Jean d'Ormesson qualifiera à la fois de guide et de traité métaphysique. Suarez, je rappelle qu'il est né en 1868 et mort en 1948, connu en son temps, surtout à Loire, oui, pour son culte de la Bretagne et du monde celtique, a fait 5 voyages en Italie de 1895 à 1928, dont il a réalisé une synthèse en prenant comme symbole le condottiere, chef de bande, mercenaire, comme vous savez, sous contrat, avec des modèles célèbres comme Sigismond Malatesta, Ludovic Sforza dit le mort, je crois qu'on l'a en photo là. Le voilà, il est beau, hein. Ludovic Sforza dit le mort, et puis il y en avait un autre, oui. Ou encore, oui, Andrea Doria également. Oui. En parcourant l'Ombrie, il admire ses collines verdoyantes, parsemées d'oliviers, ses cités accrochées à la falaise, où l'âge féodal place ses tours et ses bastions, et sans la nommer, il décrit une ville aperçue au détour de la route, juchée sur un promontoire. Alors on peut penser, bien sûr, à Perugia, ou à Arezzo, ou encore à Orvieto. Vous voyez voir une photo. Voilà. Belle représentation.
C'est une cité montagnarde et farouche, aux maisons de pierre, sombres et hautes, nid d'aigle qui menace au loin l'immense horizon où dorment Assise, Foligno, Spolete. Un vent de neige y souffle sans cesse, s'engouffrant dans des portes qui, comme celle dite d'Auguste, remontent jusqu'au temps de la domination étrusque, et il tourne dans les corridors de ces rues étroites. Le Corso Vannucci, rempli de marchands en plein air, avec les fiers palais qui le bordent, et à son extrémité la somptueuse fontaine de la place du Duomo, n'offrait aucun symptôme d'une mort locale. Les ustensiles de bronze et de terre, les harnachements de cheval, plaqués en cuivre et curieusement pomponnés de rouge, les lainages bariolés, les poteries jaunes, vertes ou brunes, aux formes antiques s'y étalaient, comme pour attester la perpétuité de la coutume. Ces mêmes objets ne se retrouvent-ils pas dans les décorations familières aux vieux peintres ? N'eussent été les costumes des bourgeois que je croisais dans la rue, j'aurais pu me croire au temps où les citoyens de ces villes accrochaient en grande pompe entre le lion et le griffon symbolique sur la façade de leur maison de ville, les colossales chaînes et les verrous pris à sienne.
Oui, je vais vous montrer de la place de Spolète. Excusez-moi, je suis en retard. Alors, les verrous pris à sienne, ce dernier détail fait allusion à la lutte fréquente entre les cités rivales italiennes au XIVe siècle, Dieu sait s'il y en a eu, en particulier celle qui a sévi entre Sienne et Perugia, et qui s'est achevée en 1358 par la défaite des Siennois à la bataille de Torita. Et la cité proche de Montepulciano, véritable bijou serti dans ses remparts, célèbre par son église extramuros de San Biagio, vous allez la voir, la voici. Donc l'église San Biagio, chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, est lieu de naissance de l'humaniste Ange Policien, et qui garde aussi, malheureusement, Montepulciano garde aussi des traces de ses luttes fratricides. J'ai cité tout à l'heure Giono, écrivain d'origine italienne, comme vous savez, fidèle à ses ancêtres. Je crois qu'il doit y avoir une photo de Giono. Voici. Très beau, là, oui. Il affirme que, oui, il dit que l'un de ses ancêtres a été Carbonaro. Mais Giono, je ne suis pas toujours fiable. Et il affirme que sa famille est originaire de Montemolo, en Piémont. Je crois que c'est le nom de Montemolo qui lui a plu particulièrement, car rien n'est moins sûr. Bon. Avec Giono, il y a toujours une part de légende, vous savez. Alors en septembre, ce qu'on sait, ça c'est sûr, en septembre 1951, il y a donc 56 ans, le casanier Jean Giono prend la route avec Élise, sa femme, et ses amis Antoine Cadière, c'est le conducteur, et son épouse. Tous les quatre sont pliés dans une 4 chevaux, comme dans une boîte à sardines, ils se plaignent tous de l'exiguïté, mais ils ont tous, et particulièrement Giono, l'œil ouvert et le carnet à la main. Et sur la route de Brescia, tout émerveillé, il note le moindre détail terre à terre.
En approchant de Lonato, il semble que le pays devienne familier. La route circule dans une terre velue, couverte de roseaux d'un vert acide. Il s'entr'ouvre sur des champs de terre rose. Par les chemins de traverse arrivent des chars traînés par des bœufs à grandes cornes. Les vergers de pommiers sont touffus comme des bosquets de plaisance. Les raies de haricots, de petits pois, de fèves, de salades, de choux s'alignent contre des prairies et des chaumes pas plus grands que des mouchoirs, mais infiniment répétés côte à côte, comme les carrés d'un damier. Les fermes sont à usage de 3 ou 4 personnes, pas plus, cela se voit. Un mûrier fait de l'ombre, une treille, des aubergines, des potirons à soupe sèche sur une murette, 5 à 6 tomates sur une assiette, un melon jaune, les bouteilles de vin rafraîchissent dans la canalisation d'arrosage. C'est le paysage des Géorgiques.
Un peu plus loin, nos voyageurs aperçoivent le lac de Garde et la littérature reprend ses droits. Catulle et Carducci sont venus habiter là. Il y a aussi un château où séjourna Dante. Au premier coteau, un petit vignoble s'est implanté. Et le paysan Giono, habitué aux vignes de Manosque courbées sur un sol caillouteux, s'étonne devant les 7 piémontais. Je crois qu'on va les voir. Ah, c'est une treille, oui. Je n'ai pas trouvé de 7 piémontais. On laisse tous leurs rameaux aux vignes. Elles escaladent les arbres. On est obligé de vendanger avec des échelles. On pratique de la même façon dans la vallée de l'Isère, entre Grenoble et Montmélian. Là-bas, les rameaux sont grêles et ressemblent à de longs vers de terre. Ici, ce sont des serpents musculeux. À une de ces grandes vignes enlacées à un mûrier, près de la route, est restée pendue une grappe oubliée. J'ai choisi comme date témoin 1950, ou si vous préférez, comme date repère. Bon, c'est justement l'époque où le héros de roman que vous allez deviner sera en Italie, au cœur de l'Ombrie, au volant de sa vieille Fiat Topolino, pour retrouver ses souvenirs de la guerre toute récente. Devant lui, au loin, se dresse sur son rocher la ville fortifiée de Varella. Je ne sais pas si on a une ville fortifiée qui vient, non? Ah oui, voilà. C'est pas exactement Varella, ça, je ne sais plus ce que j'ai choisi. Bon. À l'entrée, oui, je disais, une cité fondée au XVIe siècle par un condottier, encore un, oui. Alors, ne cherchez pas Varella sur une carte, c'est un condensé de toutes ces acropoles accrochées aux Apennins d'Ombrie. Et à l'entrée de la porte principale, il y a la statue équestre du héros du jour, Francesco de Varella.
Le condottiere gardait l'entrée de sa cité. On ne se présentait pas devant la porte sans affronter son regard aussi furieux que celui du Colleoni. Debout sur ses étriers, brandissant son épée, il refoulait les intrus. L'attitude était d'une vérité si saisissante qu'un rien semblait pouvoir l'animer. Il éclatait de force et son visage à la bouche tordue par un rictus exprimait une telle concentration dans la violence qu'il aurait terrifié les visiteurs si, par une triste dérision, les ramiers ne l'avaient ignominieusement maculé. Perché sur le fil de l'épée, sur la visière relevée du casque ou entre les oreilles du cheval, les pigeons se soulageaient avec une indicible satisfaction. Et il avait suffi d'à peine 5 ans pour que la statue équestre ressemblât à un pic neigeux.
Est-ce que vous avez reconnu le roman, le début du roman ? Alors, je vous donne des indications pour le trouver. Il est écrit en 1984 par un jeune homme vert, âgé aujourd'hui de 96 ans, qui a beaucoup voyagé, beaucoup écrit. En réalité, j'ai compté, il y a plus de 60 ouvrages. Il partage son temps entre la Grèce et l'Irlande.
Et...
Ah, bravo! Il avait connu la notoriété en 1970 avec les poneys sauvages. Alors, il s'agit effectivement de Michel Déon, entré à l'Académie française, le voici, en 1978. Alors, le livre en question s'intitule « Je vous écris d'Italie ». Et son héros, Jacques Sauvage, qui se fait appeler dans le roman Giacomo Salvaggio, bon, emprunte beaucoup de traits à l'écrivain Michel Déon, hein, lequel, bien qu'il s'en défende, appartient, vous savez, à la génération dite des hussards, reconnaissant pour maître Stendhal, Paul Morand, Valérie Larbeau et Giono, en quête du bonheur, des écrivains tous en quête du bonheur, et toujours avec une élégante désinvolture. Je crois que c'est très, très, très digne d'être noté. Alors, cette figure emblématique du condottiere qui a séduit André Suarez comme Michel Déon, nous allons la retrouver sur une fresque du Palazzo Pubblico de Sienne, peinte en 1310 par Simone Martini. Il s'agit du portrait de Messire Guidoriccio Re d'Apoliano, honorable capitaine de guerre au service de la République. Et là, je crois qu'il faut laisser la plume à un grand italophile, Dominique Fernandez, dans Le promeneur amoureux, 1880. L'ironie réaliste s'exerce tout entière contre le condottiere superbe, car il a beau, vêtu d'une longue cotte jaune d'or, somptueusement brodée de rangs de losanges foncés. Je crois qu'il y a une image qui va venir, on le voit mieux, voilà. Une cotte jaune d'or somptueusement brodée de rangs de losanges foncés et de feuilles de lierre. Ça, je ne les vois pas, mais on le croit. Caracolé sur un cheval caparaçonné de la même étoffe, et brandir son bâton de commandement, son corps trapu et adipeux, sa mâchoire empâtée, son œil fixe et bête, montre avec un humour féroce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matière grise pour gagner une bataille. Bon, le commentaire un peu vache, hein, oui. C'est peut-être la première dénonciation critique de l'anti-héros, le premier regard ironique sur la jactance des capitaines sans cervelle. Bon, ironie du portrait, soit, mais la beauté de la fresque, pour moi, l'emporte. Hein. Bon, aussi. Moi, je ne peux m'empêcher de penser, vous savez, au mot de Peggy sur Descartes, ce cavalier qui partit d'un si bon pas. Il ne faut pas oublier que le Palazzo Pubblico est situé dans un lieu, à proprement parler, inoubliable, la Piazza del Campo, et je crois qu'il faut redonner la parole à Dominique Fernandez.
Piazza del Campo, la place en forme de coquille inclinée, il n'existe peut-être aucun ensemble dans la péninsule qui donne une idée aussi claire du génie urbanistique italien. Une place en Italie n'est pas seulement le carrefour de plusieurs rues, elle est un organisme vivant, un réceptacle, un foyer, le lieu palpitant et chaud de l'activité citadine. Il y a des places mères, comme la place de Saint-Pierre de Rome, et il y a des places femmes. La Piazza del Campo à Sienne est la plus femme des places féminines. Au milieu se dresse la merveilleuse fontaine décorée par Jacopo della Quercia au début du XVe siècle.
Je ne peux trouver meilleure conclusion provisoire à l'évocation de ce lieu symbolique qui est chargé d'antiquité, chargé de religiosité, que ce mot de l'incontournable André Suarez, le voilà encore, c'est la conque d'Aphrodite ou le bénitier de Marie. À votre choix. À la suite, Dominique Fernandez qui a consacré 12 ouvrages à l'Italie. Je me contenterai de citer pour mémoire deux livres estimables, « Désir d'Italie » 1997 de Jean-Noël Schifano, intéressant, et « Le voyage en Italie » date de 2011 de Jean-Claude Simoën, et j'ajouterai le très culturel « Voyage à Rome » 2004 de Pierre Grimal, c'est une référence pour les buddhistes, je suis obligé de le citer, c'est d'ailleurs fort intéressant. Mais je tiens à terminer par un récit tout récent que vous avez certainement en mémoire, qui est paru en janvier 2015, s'appelle « Je cherche l'Italie », écrit par Yannick Hennel, le voici, et qu'il définit lui-même comme le récit d'une expérience 4 ans passés à Florence entre 2011 et 2014, au cours desquels il va découvrir en même temps l'éblouissement des émotions artistiques et le choc de la crise qui dévastent le pays. Alors, ça pourrait être un anti-manuel de voyage, où l'aspect descriptif s'efface au profit d'une méditation autour de la question du politique. Alors, on va écouter ses premières impressions.
Je suis arrivée à Florence un matin de janvier. La lumière était grise. Une pluie glacée tourbillonnait sur les arcades du vieux marché. J'étais trempée. Mais la tempête ne m'atteignait pas. La simple idée de marcher dans la ville de Dante, de Masaccio, de Michel-Ange suffisait à ma joie. J'attendais tout de l'Italie, des aventures et du repos, des sensations de feu, de l'apaisement. Je désirais une vie large et bleue, loin des angles morts de la France. Je n'avais absolument aucun but, juste du temps et une soif immense d'églises, de fresques, de sculptures. Comme le narrateur dans Proust, je brûlais d'inscrire les dômes et les tours dans le plan de ma propre vie. On était en 2011. Berlusconi était encore au pouvoir. Impossible d'oublier sa tête, placardée dans tous les kiosques. En une des journaux, on ne voyait qu'elle. Et partout, en gros titres, l'expression « bunga bunga ». Berlusconi souriait. Ce sourire éclaboussait la ville. Il proclamait la satisfaction du souilleur.
C'est à ce moment qu'a lieu une scène symbolique. Yannick Enel est interpellé par un jeune noir qui veut lui vendre un parapluie. Ce jeune noir vient du Sénégal et il survit péniblement dans la banlieue de Florence. Sa voix, et là je cite Yannick Enel, avait traversé des siècles et depuis Gorée, l'île des esclaves, elle répétait le vieux murmure des souffrances. En face, la porte du baptistère s'offrait au regard.
Toute dorée, elle brillait comme un joyau. C'était la porte sculptée par Ghiberti, celle de Michel-Ange, admiratif, nomma la porte du paradis. 10 panneaux figurent des scènes de la Genèse. Ils s'inscrivent dans le miroitement de bronze. Des feuilles d'or y allument des éclairs où viennent tournoyer les élans de l'écriture. Ces déchirements, ces envols, le silence où s'accomplit la prophétie. Une lumière s'emparait de la ville. Une lumière matinale, poudreuse, oblique, comme dit le narrateur dans Swann. C'était la lumière que j'espérais. Le ciel est dur ici, d'une blancheur obstinée, même en janvier. J'étais absorbée par l'éblouissement de la porte du paradis, comblée, presque égarée. Il y en a qui prient, moi j'ai des extases. Face à la porte, j'accomplissais un rite. La porte n'était pas qu'un symbole. J'étais en train de me placer sous sa protection. Durant la nuit, j'avais ressassé mes raisons de vivre. Pourquoi venais-je en Italie? Une formule tournait dans ma tête, cette vieille formule usée, faire le point. Oui, j'allais faire le point. Comment fait le vide? Comment ajuste une focale? L'arrivée de l'infini dans une existence ne se prévoit pas. En contemplant la porte, en suivant ses cortèges, ses jeunes filles drapées comme des anges, en me glissant parmi ces tournoiements de lignes qui sont invisibles et s'embrassent comme des feux rituels, j'avais compris que ce point n'était pas fixe et qu'en un sens, il ne se trouve nulle part. J'apercevais une lueur mobile et frémissante, et cette lueur, ce matin, s'adressait à moi.
La pluie avait repris, mais le ciel était clair. La place était déserte. Quelque chose a traversé ces formes légères comme une voie de silence, une chose qui est de passage. Tout en venant, elle s'éloigne. cette épiphanie bleue et blanche qui salue là-haut entre le dôme et le campanile. C'est peut-être ce qu'on nomme un dieu ou une déesse. Un dieu, une déesse qui respire en dehors de la foi, en dehors de l'espérance et même en dehors de la charité. Un dieu, une déesse qui habite l'élément du langage, qui apparaît et disparaît à travers la parole et qui se déploie sous le nom de poésie.
Cette nuance un peu cruelle de bleu qui crépitait ce matin-là entre les rues de Florence, si c'est un dieu, alors c'est un dieu qui peint, qui chante, qui habite le plaisir, les détails, les nuances. Un dieu féminin qui s'exprime à travers l'art, qui anime les coupoles, les dômes, les plafonds, les arcades, les pontons, les ruelles. C'est ce dieu sensuel, batailleur et litigieux, plein de malice et d'extase, que le Quattrocento a inventé, tout en étant inventé par lui. Masaccio, Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Uccello, Fra Angelico, Ghirlandaio fondent ensemble l'éclair qui baptise Florence, cette ville esprit.
À Florence, où les tentations artistiques sont nombreuses, Yannick Enel a eu son lieu de prédilection, le couvent San Marco, où il contemple inlassablement l'Annonciation que Fra Angelico a peinte sur le mur du corridor. Le 25 mars 2011, jour de l'Annonciation, il est allé assister à l'arrivée de la lumière à l'aube. En réalité, il assiste à l'invention de la fresque, comme si la lumière la peignait sous ses yeux, comme si la lumière qu'il habite la découvrait.
Le rayon atteint l'extrémité droite de la scène. La lumière rejoint la Vierge, son visage, ses mains, son auréole. La parole de l'ange se transporte en silence jusqu'à cette ombre discrète qu'on remarque derrière la Vierge. L'espace est maintenant entièrement éclairé. L'Annonciation a eu lieu.
À la suite de cette émotion intense, où assurément l'admiration pour le peintre l'emporte sur le sentiment religieux, Yannick Enel prend ses distances et comprend que ce qu'il éprouve ne doit rien à un élan mystique.
J'en suis sûr, le sacré n'a rien à voir avec la religion. Il est la présence, à l'intérieur du langage, de ce qui est aimé. Si je parviens à me concentrer, si je reste disponible, si mes phrases maintiennent en elles l'intensité qui les ouvre aux fresques de Paolo Uccello et de Fra Angelico, aux bronzes de Ghiberti, aux pierres de Brunelleschi, alors la poésie ne s'interrompra plus en moi. Je deviendrai entièrement l'expérience qui m'anime. Je ne serai plus que poésie. Ma vie sera un chant, une écoute vivante.
Et vous, chers auditeurs, j'espère que votre écoute attentive a été sensible à l'esprit de ces lieux préservés où l'art a fait don à la matière d'une beauté, une beauté qu'on peut dire intemporelle. Je vous remercie.
Un grand merci à notre ami André.